Il est 23h72 et 666 secondes, c'est l'heure de péniche.
Je vais ouvrir l'écluse.
L'écluse ?
Je n'ai vu aucune écluse. Dois-je en déduire qu'à votre siècle, on ne peut plus aller pisser ?
One, two, three, four !
Vous mettez en slip chaussette ?
Ah, ça y est, c'est déjà fait.
Salut les matelots et les matelotes, on est le vendredi 6 mars, c'est la péniche qui accoste, on est en direct depuis le studio 2 de Radio Primitive. Hein.
Oui, même si on
pas de son, pardon.
Secondes.
Pardon, ouais.
je dis oui, même si pendant quelques secondes on avait l'impression d'être dans un autre studio là.
Ah oui, c'est
ça,
un petit souvenir.
On a un vieux truc là.
Tout à fait. Ouais. Mais on est sur le...
Oh, le slip chaussette, incroyable.
9-2-4, voilà, ouais. Toi-même tu sais. Aujourd'hui, outre la compagnie de notre navigatrice préférée, Marie, on accueille un mousse, mais alors un mousse vétéran.
Ouais, un mousse qui était là aux origines.
JC Isaac, JC Cactus, JC Poutrage, JC Brissour,
JC...
Il faut la casquette de matelot. Ouais.
Mais aussi et surtout, JC Radio Écluse.
Oui.
JC Péniche.
Oui.
C'est grâce à JC qu'un mardi...
Ouais.
De 2012, il me semble que c'était le 13 janvier 2012 que nous nous enfermâmes dans une pièce slash placard d'un squat rue de la Cerisière, à savoir l'écluse, rest in peace comme on dit.
Yes.
Que nous nous enfermâmes donc pour enregistrer la toute première émission de Radio Écluse.
Ouais.
Le nom à l'époque, hein, donc une idée de podcast initiée par JC. Donc,
c'est vrai.
Pas que.
Qui était précurseur. Ouais, mais
c'était quand même lancé le truc. Hein.
Précurseur donc de la mode. Hein. Il y avait pas YouTube, on n'avait pas Internet en 2012. Elle est jeune.
Donc il fallait réfléchir à des ateliers. Et c'est vrai que la radio, ça m'a toujours attiré. Quoi.
Oui, c'est comme ça que tu nous avais vendu le projet.
C'est
et
vrai.
Très rapidement, nous avons été rejoints par toute une armée d'amateurs et amatrices de musique de plus ou moins bon goût. La musique ou les amateurs, on ne sait pas. Ouais. Dont vos serviteurs et trices ici présents, Marie et moi-même.
Non, mais je suis content que ça dure dans le temps.
Eh bien, tout à fait, on est les derniers.
Et puis, on voit vraiment l'évolution, parce que je pense que si tu réécoutes les premières émissions, c'est dégueu.
J'espère quand même en 60 ans d'émission.
Une belle évolution, en tout cas.
On est toujours là, les fiers derniers combattants.
Ouais.
Tantôt nostalgiques et tantôt avides de nouveautés, continuant de creuser ce super sillon de la radio comme on l'aime. De niche, waf waf. sans se prendre au sérieux, mais où on aime croire quand même qu'on apprend et qu'on découvre des trucs.
Oh là là,
bref,
bravo,
merci JC.
Bravo, voilà, Yann.
Je suis ému.
Sinon, ça va ?
Ça va, t'es à l'aise ?
Non, je suis hyper content de revenir.
Ça fait trop plaisir.
Ça fait très longtemps que j'aurais dû revenir avant, mais ces derniers temps, je me suis dit qu'il fallait se faire du bien en faisant des trucs qu'on aimait bien. Donc,
Je crois que c'est une bonne philosophie.
Ouais, voilà. Donc, le mental va mieux. Donc, voilà, je m'autorise à revenir. Peut-être pour durer.
Tu sais que ton siège t'attend depuis des années.
Dos au chauffage, là.
Alors, par contre, quand les jours où Pierre sera là, va falloir que vous organisiez parce qu'habituellement, c'est la place de Pierre.
On peut mettre deux sièges côté chauffage.
Oui,
aussi,
Non, mais regarde, il y en a un, il sert à rien.
Pas, à l'écluse, j'avais l'habitude de mettre mon manteau.
On avait l'habitude d'avoir des plaids, des chauffages d'appoint.
Vous avez la rêve derrière ?
Bah oui, The Drive-In.
Pourquoi ?
Parce que première émission.
Tout premier morceau de la toute première émission.
Bah oui, oui. Hein.
J'ai découvert The Drive-In grâce à toi.
Ah oui, je crois que c'est moi qui l'ai passé ce truc.
Bon, bref, encore merci.
Quel album.
Alors, on n'a pas fini de chialer ce soir, mais j'espère qu'il n'y aura pas que des larmes.
J'espère que tu vas pas me ressortir mon discours sur l'écluse de
qu'on avait fait arriver à Radio Primitive dans le grand studio.
Ou alors, tu sais, le jingle, quand il était pas là avec les proutes ou je sais pas quoi, et puis le « Ah non, Marie, pas toi
».
Ça m'en souvient de ça. On les a gardés.
Bon, on n'a pas prévu de morceau, de toute façon, on va juste raconter des souvenirs.
Ce soir.
En parlant de morceaux, qu'est-ce qu'on a prévu de beau ?
Oh là là, alors attends, je n'ai plus ma fiche. Alors, on a une petite sélection éclectisme, découverte et bouge ton boule. Alors évidemment, j'ai fait comme d'habitude, j'en ai frit trois fois trop. Mmh. Mais voilà, c'est en vrac ce qu'on peut entendre ce soir. Du slow jump, de la noise, du post-hardcore screamo. Alors, j'ai pris le screamo parce qu'on s'est dit heureusement qu'on l'a pas fait il y a deux semaines. Il y a deux semaines, t'aurais pété un plomb. Il n'y avait rien de calme. Il n'y avait absolument rien de calme. Non, mais on a pensé à toi.
J'aime bien aussi la violence.
Hein. Oui. Cold Wave et puis le bouge ton boule. On est plutôt dans.
Il y en aura peut-être un peu trop, effectivement.
Dans l'expé, indus. Bon, on verra bien. On verra bien ce qu'on passera. En tout cas, voilà, on peut entendre ça ce soir. Yannou, vous avez quoi, vous ?
Ben, je sais plus.
Ah, ben voilà.
Si, j'ai du post. Oh, on va faire un petit tour du monde. J'ai du post-hardcore plutôt indie qui vient des États-Unis. J'ai du post-hardcore plutôt indie qui vient d'Inde.
Oh,
a-t-on déjà passé un groupe indien ?
Ça me dit pas.
C'est pas.
Aucun souvenir.
On crée une nouvelle rubrique. Une nouveauté d'un groupe parisien que j'ai été voir il y a pas longtemps et puis qui vient de. Enfin, qu'avait annoncé à l'époque de la sortie d'un nouvel album, ça sera plutôt du post-hardcore.
Ah bah tiens.
À savoir, c'est The Prestige qui revient.
Oh. Ouais.
Et vous, JC, qu'avez-vous ramené ?
Alors moi, je me suis dit, je vais ramener des trucs qui me correspondent aujourd'hui, la musique que j'écoute plutôt spirituelle et une grande méditation. Dedans, il y a une nouveauté et non, il y a deux nouveautés et un truc un peu plus ancien, mais voilà.
Ça marche quand même.
Ça marche quand même.
Ouais, oui.
Et c'est de l'orgue, vu que j'adore l'orgue.
Ouais.
Voilà.
Cool. Oh merde, c'est okay. Cool. Oui, je suis prête. Et regarde, je suis prête et à la main.
On a 7 minutes de retard. Génial. Oh, à la main.
Ben non, mais parce que c'est la feuille de la semaine dernière. Du coup, comme tu m'as dit, on reporte, j'ai pas réimprimé une feuille, tu vois, c'est mon côté écolo.
Tout à fait.
J'écris comme un cochon, c'est génial.
Que s'est-il passé dans l'histoire, Lucie ? Mars, c'est l'effet Maride.
Effet Maride spécial, vrac de l'histoire au féminin, c'était pas fait exprès, mais on s'est rendu compte après. En cette Independence Day au Ghana, célébrant l'indépendance par rapport à la Grande-Bretagne, indépendance déclarée à ce jour en 1957. C'est bien l'indépendance. Alors on commence avec la du 6 mars 1883 à Paris, c'est la sortie du premier numéro du journal La Vengeance Anarchiste, organe hebdomadaire dont seulement deux numéros paraîtront. Alors j'ai déjà fait des journaux courts, mais alors là celui-là je crois que fait partie du top 3 des plus courts. Hein. Mais on note quand même que dans le premier numéro, il y avait un article sur la femme anarchiste, signé d'une femme anarchiste nommée Marguerite Leloup. Et ça, en général, c'est pareil. Même dans les trucs anarchistes du 19e, c'est souvent des hommes. Donc voilà, là, je voulais le noter. 1980, autre Marguerite. Il y en a d'autres. Et ce ne sont pas toujours des femmes anarchistes ou des noms pour désigner des vaches. Non, là, c'est plutôt Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar.
C'est celle qui taille les haies.
Oui.
Non, c'est un sketch des chiens. C'est un Yourcenar qui va tailler la haie.
Ah oui, enfin, d'accord. Bon, bah. Bravo, quelle culture.
Ah bah.
Alors là, on n'est plus. Alors peut-être qu'elle t'a aidé, j'en sais rien. Hein, mais
je connais mieux Morel que Yourcenar.
Oui. Là, on la connaît plutôt pour son côté romancière, novelliste, autobiographe, poétesse, traductrice, essayiste, critique littéraire, du théâtre aussi. Bref, hyper complète. Et du coup, elle devient la première femme élue à l'Académie française. Bien dû se faire chier là-bas. Mais voilà, pareil, une Marguerite qui fut la première.
Il n'y avait pas de toilettes femmes.
Ouais, voilà, la question se posait pas. T'imagines tout ce qu'ils ont dû penser. Ils n'ont pas pensé à arrêter, par contre, bon, ça c'est tout. Hein. Et enfin, 2002, pas de Marguerite, mais par contre, une autre femme dont on a déjà parlé dans l'émission, dans un portrait de femme, c'est la mise en place de la loi spéciale de restitution par la France de la dépouille mortelle de Sartier Bartman, surnommée donc la Vénus Hottentote, à l'Afrique du Sud. Et bien oui, parce qu'ils l'avaient gardée, ils l'avaient exposée, ils avaient utilisé son cerveau pour faire des petites expériences, puis avant, ils se sont dit, bon. Tu peux te décence quand même, on va la rendre à son pays, puis elle va être enterrée avec un peu plus de dignité qu'on l'a traité.
Ils n'avaient plus d'utilité à la garder.
Non, mais surtout qu'en plus, il me semble que j'avais dit qu'après justement l'avoir exposée, elle était passée limite à l'arrière de la boutique à prendre la poussière. Enfin, c'est un corps d'être humain quand même, merci. Donc voilà, c'était les des femmes dans l'histoire.
On enchaîne avec une anecdote musicale.
Ouais.
Pour rigoler un bon coup.
Ah bah rigoler, je sais pas.
Ah bon, merde.
Mais ça va vous surprendre, ça c'est sûr. Cette semaine, on va s'intéresser à la date du 6 mars 1970.
Mmh. 70. 70, oh. Pink Floyd. C'est Pink Floyd,
non.
C'est anglais.
Non.
Donc c'est pas Black Sabbath non plus.
Non. C'est plutôt du côté des States.
Des States.
Ouais, et alors à la base, c'est pas une personne qui est connue pour sa musique. J'essaie de vous donner des indices. Ah. On va dire qu'il s'est illustré dans un autre style. Un peu plus sanglant. 1970.
Un serial killer.
Un serial killer.
Oui, un serial killer, yes.
Charles Manson.
Exactement. Ah. T'étais sur qui, t'as Non, Charles Manson. Okay. Donc oui, effectivement,
oui,
en fait, dans l'éphémérie de la musique des 6 mars, il y avait beaucoup de gens morts ou des anecdotes qui m'intéressaient un petit peu moins. Et là, je suis tombée sur celle-ci qui m'a vachement étonnée. Je pensais pas voir un jour un serial killer. Donc effectivement, Charles Manson sort un album intitulé Lie afin de récolter des fonds pour sa défense lors du procès pour les meurtres, je sais, on rigole plus, hein, de Sharon Tate et des époux LaBianca, hein, le mec doute de rien. Hein,
ça a marché ?
J'en sais rien, mais je me demande si, enfin, auprès de ses adeptes aussi, il y a eu de la thune récoltée, mais pas suffisamment dans tous les cas.
Mais il en récoltait déjà avant de sortir l'album.
Oui, voilà. La pochette imitait donc la couverture en fait d'un magazine qui est connu là-bas qui s'appelle Life, et donc en notant le F pour exprimer tous les mensonges qui lui tombaient dessus. Non, il n'a jamais rien fait. Alors
c'est
oui, d'accord. Dans les faits, il a peut-être pas donné le coup fatal à Tate et aux époux LaBianca, mais bon, il a pas rien fait, quoi. Bref. Et donc pour rappel, hein, au-delà de son côté gourou bien crade, il avait eu entre guillemets, attention, petit succès, mais tout petit, hein, Rikiki petit succès musical au milieu des années 60, quand lui et la Manson Family avaient extrêmement squatté Dennis Wilson, qui était donc le batteur des Beach Boys, qui, une fois convaincu, mais je pense qu'il l'a juste saoulé, et en plus, il avait tellement foutu le bordel chez lui qu'il a dit, allez, vas-y, comme ça, il se casse, donc avait enregistré sa chanson Cease to Exist, qui a été modifié après en Never Learn Not to Love, qui figurera donc sur une phase B d'un single. Et ce single atteindra quand même, c'est pour ça que je vous dis quand même, petit mini succès, la 61e place des charts américains en 1969. Aucun de nous n'a été à la 61e place des charts, et encore moins en 69. Donc bon, voilà. Et la suite, on la connaît. Donc, condamnation à mort qui devient une condamnation à vie, croix gammée sur le front, petit mariage lors de sa vieillesse avec une jeune qui a fait comme les autres, c'est-à-dire s'est également rasé la tête et s'est fait aussi une croix sur le front, et mort en 2017.
C'est une chronique beaucoup trop longue pour cette
pour Charles Manson. Oui, mais c'était pour rappeler qu'en fait c'est bon. C'est bon, il est mort. On arrête. Et du coup,
un portrait de femme.
Mais je vous promets, je vous laisserai le temps de passer de la musique. Allez, c'est parti. Né le 13 septembre 1881. Vous intéresser, relou. À 1800, mais plus, c'est même pas 81, c'est 1861 à Paris. Eugénie Guilou est tout en contraste, Yann, ça va te plaire, puisqu'elle sera autant religieuse que prostituée et même proxénète. Voilà, rien n'est impossible quand on rêve fort. Bon alors, seule fille d'une fratrie, Eugénie fait des études au pensionnat des Sœurs de la Providence et obtient en 1878 son brevet de second ordre. Et puisque c'est une femme au 19e siècle, évidemment, elle ne va pas devenir institutrice, mais sous-maîtresse, voilà, on en apprend des choses, hein. Oui, sous-maîtresse, dans une école à Vincennes. Mais bon, pas d'inquiétude, hein. après avoir rejoint la congrégation des Sœurs de Sion en 1880, évidemment, comme postulante, et après son noviciat, j'ai appris plein de mots, qui est une période d'initiation et d'approbation à la vie religieuse, elle devient sœur enseignante en 1882. Parce que j'y sais, à chaque fois que je parle des femmes du 19e siècle, elles ont toujours été enseignantes. Hein. Il n'y avait pas d'autre métier au 19e pour les femmes. Envoyée en Roumanie la même année, elle se fait exclure parce que, orpheline ruinée à cause des mauvais placements de son père, elle ne versait plus d'argent au couvent. Oh ben merde alors! Et si on parlait de la charité chrétienne, non? Bon, et également à cause d'un comportement, je cite, hystérique, encore une fois, hein, les grands mots du 19e, causé par des pratiques disciplinaires auxquelles elle était astreinte et qui pervertissaient les autres religieuses. Apparemment, elle aimait bien, elle, se faire punir.
C'était le bordel au couvent.
Voilà, vilaine. Bah.
C'est le cas de le dire.
Et en fait, elle y avait retrouvé tous les vices du monde extérieur enrobés dans une sorte d'hypocrisie qu'elle n'arrivait pas à supporter, quoi. Enfin, il faut arrêter de passer par la religion, quoi. Donc, un accord de dédommagement en sa faveur est conclu le 3 janvier 1893 pour un beau montant de 2000 francs de l'époque. Eugénie doit alors consentir à renoncer à tous ses droits et réclamations au sujet du congé qui lui a été donné. Ainsi, quand la mère supérieure refuse de prêter serment pour devenir religieuse, Eugénie prend sa plume pour se plaindre auprès du pape. Non pas parce qu'elle a enfin eu la révélation divine, non, pas du tout, hein, simplement pour ne pas se soumettre à ses supérieurs. Elle était déjà un petit peu révoltée. Malheureusement, pour elle, à ce moment-là, après un long procès qui a commencé en janvier 1900, elle capitule et accepte enfin de quitter le couvent. Ça sent quand même la nana, voilà, un peu mise à l'écart, je trouve, plus pour protéger la congrégation et ce qui pouvait être passé sous silence tout ce qui est en lien avec l'éducation par le fouet ou les châtiments corporels, que parce que vraiment elle y prenait du plaisir. Hein, on sait maintenant que il se passe beaucoup de choses dans des lieux de type école religieuse ou couvent où on prend du plaisir.
C'est bien connu.
Caché par la religion. Non, moi, Saint-Victor, je sais pas. Moi, je me suis fait traiter en sixième de. Comment on dit quand t'aimes pas les, quand tu crois pas. Non, un truc en H. Tu sais, quand t'aimes pas hérétique. La religion. Et ouais, c'est ça, hérétique. Non,
mais t'avais un t-shirt Slipknot aussi.
Non. Bon. J'avais mis avec des copains des croix, les croix qu'il y avait à l'envers.
Ah oui.
Bon, bref. Bon, du coup, changement de voie et reconversion professionnelle. Donc, de 1894, dans un autre style, à 1901, Eugénie Polyvalente, évidemment, travaille comme gouvernante, enseignante, servante chez une proxénète à Paris. Elle commence une période où elle pose dans des journaux sous différents pseudonymes des annonces où elle se présente comme une institutrice diplômée ayant professé dans un couvent et donnant des cours particuliers. Bling, bling, voilà. Elle écrit aussi qu'elle demande... Elle demande des leçons et parfois en échange de celles qu'elle donne sous le pseudonyme de Madame de Florimbal, une dame du monde très distinguée. Elle donne des cours d'anglais et de français à des élèves expérimentés. Bling bling des deux yeux.
Ah oui,
ah oui, bah, fallait lire le sous-texte. Hein, voilà, exact, bah, c'est exactement ça. En 1902, la police s'intéresse à son cas en tombant sur une petite annonce parue dans le journal qui s'appelait Le Journal, donc quotidien de la Belle Époque. C'était marqué, donc recevoir le fouet est chez moi une passion, un besoin. Si vous pouvez me trouver un monsieur aisé aimant fesser la femme, je vous dédommagerai généreusement. Et ça peut. Donc Eugénie Guilloux n'est pas une prostituée comme les autres et attire de ce fait une clientèle particulière. Ses cours d'anglais sont un prétexte évidemment pour des cours bien particuliers puisqu'elle donne des cours habillées en religieuse avec des jeunes femmes qui suivent ses cours, qui sont en général nues, parce qu'on pense que... Autant aller à l'essentiel. Hein. Oui, voilà. Les cours se font donc dans un grand salon séparé en deux parties par un rideau rouge percé de trous. Ah, petit peeping tom au passage. Donc d'un côté se tient donc Eugénie et ses élèves et de l'autre eh ben, les voyeurs. Hein. Donc elle déguise des jeunes femmes mineures hein, pour les corriger. Tandis que des messieurs espionnent derrière un gros rideau. J'ai pas écrit ce qu'ils faisaient d'autre. Elle se dira d'ailleurs pucelle, mais prête à se faire déflorer pour une somme rondelette et préférera se faire fouetter, voire fouetter elle-même, pour donner du plaisir à ses riches partenaires. Et à cette époque, elle deviendra la reine des jeux de rôle. Hein, comme quoi, ça date pas d'hier, les jeux de rôle. Mais c'est pas les mêmes, là, c'est pas Donjons et Dragons. Hein. En décembre 1902...
Un donjon un peu, quoi.
Oui, un peu, oui. Lépine, donc le commissaire du service des garnis, hein, inspecteur et un certain Charles Badin, inspecteur principal et un autre négo brigadier se déplacent chez elle, prennent les délinquants en flagrant délit et lui confisquent martinet et autres objets sexuels. Oh, c'est pas gentil, hein. Donc Eugénie et les trois femmes qui ont entre 20 et 22 ans à ce moment-là sont arrêtées le 12 décembre pour prostitution clandestine et attentat aux mœurs et brièvement incarcérées à la prison de Saint-Lazare. Selon son habitude, elle utilise des petites annonces de la presse. Ah non, pardon. Excuse-moi, j'ai loupé une étape. Elle est quand même sortie en 1903 et elle a repris ses bonnes habitudes. Donc voilà, elle réutilise la presse pour prendre ses rendez-vous. Elle s'y pose en adepte, certes, du fouet, tantôt passive, tantôt elle joue maintenant le rôle de la victime complaisante, active, bourreau, voilà aussi, qui choisit des jeunes proies pour satisfaire ses amateurs voyeurs et dans tous les cas, contre une rémunération bien sûr. Se voyant vieillir, Eugénie se lance à son tour dans le proxénétisme. Ben oui, on est, voilà, c'est ça, hein, l'évolution dans la société. Elle ouvre une maison de rendez-vous, c'est mignon, maison de rendez-vous, en mars 1903. Elle n'hésite pas à assurer sa tranquillité. Alors là, c'est pas cool, par contre, Eugénie, en dénonçant la concurrence auprès du commissariat de la police de son quartier. Elle répond en effet aux accusations de ses rivales sur le marché parisien et devient bientôt un des indicateurs privilégiés de la brigade des mœurs. C'est pas cool, hein, quand même, c'est pas cool. Hein. Mais voilà, vous voyez où ça mène le capitalisme. Bon, bref. Devenue proxénète et femme d'affaires, elle ouvre l'établissement Beauty Salon en 1907. Ce dernier devient l'Institut Beauty Palace en 1909 et elle est obligée de le quitter en 1911. On arrive à la fin, les amis. À 52 ans, elle cherche alors à trouver un mari, parce que bon, merde, on ne sait plus quoi faire, donc on va peut-être se marier. Alors toujours en utilisant les petites annonces, hein, comme quoi. Hein. Et en 1907, elle épouse John Dillon McCormack, docteur irlandais de 30 ans, son cadet. La même année, elle est condamnée quand même à un an d'emprisonnement et 500 francs d'amende pour le délit d'outrage aux bonnes mœurs. Elle avait ça en elle. Le jugement est fondé donc sur la production de documents découverts chez elle par un commissaire de police lors d'une perquisition. Toutefois, la Cour de cassation annule en 1917 la condamnation de la Cour d'appel de 1916 car la perquisition s'est faite sans délégation du juge d'instruction. Ah ben voilà, bravo, hein, ah, bravo la police. Hein. Alors son mari blessé pendant la Première Guerre mondiale, il retourne en Irlande où il sera soigné. Mais bon, j'ai dit ça va pas trop l'intéresser d'aller se mettre en Irlande. Donc elle n'y est pas allée et là on a perdu sa trace. Et donc tout ce qu'on sait, bah, alors ça finit pas très bien, hein, c'est qu'elle va se suicider à Angers le 19 août 1933 en se pendant aux persiennes de sa chambre. Elle souffrait de problèmes cardiaques et de neurasthénie, elle manquait de ressources, elle était trop vieille pour faire son métier de passion et donc bah, voilà, elle s'en est allée. C'était Eugénie Guillou.
Elle s'est pendue avec un fouet.
Non, t'as mais par contre, il y avait vraiment, j'ai retrouvé vraiment un article du journal de l'époque. Il y avait vraiment un encart, pas très très grand, mais avec la photo de sa fenêtre. On la voit pas, mais enfin, tu vois, ça a quand même fait les titres. Hein, c'est voilà.
Très bien, merci
Eugénie
Marie.
Guillou, bah, je vous en prie, merci à elle.
Un peu de musique.
Oui.
Ça vous dit.
Allez.
Bon, bah c'est parti. C'est la péniche saison 15 émission.
20, 19.
20.
Je sais plus.
21.
Ouais,
s'en
fout. Ça.
Ouais, ça. Bienvenue à bord. We'll be right back. attaquer avec quoi? Ah bah on était en Inde, on était à Mumbai exactement. Écoutez, un groupe qui s'appelle Pacifist. Comme vous avez pu l'entendre, post-hardcore, parfois un peu noisy, parfois un peu mélo, etc. Ils viennent de sortir un EP qui s'appelle Five, c'est sorti au mois de janvier chez Inspirus Records. Voilà, c'est prix libre hein, sur leur Bandcamp.
Non mais on aurait dit un groupe américain.
Ouais, tout à fait, carrément.
C'est
ouais.
Bien, tout bien, à fait bien aussi, foutu. Ça m'a surpris en l'écoutant.
Non mais une super scène, il paraît en Inde. De personnes que j'ai vu contourner là-bas, apparemment c'est de la folie.
Ah bah, tu vois.
Hein. On n'est pas trop courant, j'avoue.
Mais ouais.
Eh ben, j'y sais, je vous en prie, ça me fait plaisir. J'ai déjà beaucoup parlé, allez à vous.
Ah, c'est à mon tour.
Allez.
Eh ben, je vais vous parler de quelqu'un qu'on connaît, qui vient de sortir un album. Il s'appelle Julien Louvet. Ah. C'est Austrasian Goat. Ouais, j'aime beaucoup son dernier album là. Il vient de sortir chez Bruit Direct, donc qui est quand même un gros label noise. Donc c'est un projet qu'il a depuis hyper longtemps et donc qui était en stand-by depuis un petit moment. Et là, il ressort un truc donc qui navigue entre industriel, drone, musique rituelle. Et ce qui est marrant avec Austrasian Goat, c'est qu'à chaque fois, il change de style de musique, mais l'ambiance reste la même, quoi. Il peut faire un album de néo-folk ou de black metal ou de musique répétitive. On sent direct la signature de Julien, ouais. Et il est vraiment très très fort. Et j'adore son album. Donc le morceau là que je vous passe s'appelle, c'est en allemand, donc je pourrais bien le Die für Seelen. Ok. Donc littéralement en français, les âmes de feu. Voilà, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Donc il développe une ambiance hyper sombre, presque incantatoire. Donc ça se répète d'ailleurs au tout début du morceau, on a un sample de Georges Delerue qui est un extrait de la BO du film Le Mépris en 1965, vous allez reconnaître, et en fait ça tourne en boucle, il n'y a pas le thème en entier et du coup c'est hyper oppressant et malsain. Donc là on est dans quelque chose de très physique et hypnotique avec donc pas mal de textures abrasives, répétitives et donc qui rappellent certaines traditions de la scène industrielle européenne. Voilà, c'est une musique qui travaille beaucoup sur de la trance. Hein. Moi, je n'écoute ça beaucoup pour méditer. J'adore méditer. Ça me fait du bien et j'espère que ça vous fera du bien. Voilà, c'est un peu comme un rituel mécanique. On s'écoute Austrasian Goat. Thank you.
J'ai essayé de le laisser jusqu'au bout, mais j'avais peur que la bande de squall se déclenche sur la fin. Merci JC, c'était Australian Goat. Ouais.
Un peu plombé l'ambiance. Mais
non, ça fait vraiment
c'était
du
joli.
Bien. Bah puis c'est ouais, tu dis que tu médites dessus, mais je comprends rien que là, à le réécouter. Moi, je suis déjà partie dans ma tête aussi. Enfin, c'est introspectif, hein, des fois.
Tout à fait.
Ouais.
C'est aussi ça parfois la péniche.
Ah oui, c'est
parce
vrai.
En direct là, jusqu'à 20h sur Radio Primitive. On est avec JC ce soir.
Ouais, c'est trop cool. Allez, je commence ma sélection. Je sais pas si je rebousse, pas grave. Avec une découverte hein, qui porte. Non, mais c'est pas grave. Moi, ça me va. Qui porte le nom de Doug, qui est un duo. Basse batterie, alors mélangeant ouais, Sludgeum, Noise from Minneapolis, Minnesota. Le 27 mars prochain, d'ici quelques semaines, via The Ghost is Clear, évidemment, le groupe sortira son quatrième album intitulé Mule. Donc pour l'heure, une piste est disponible sur leur Bandcamp, donc évidemment, il n'y a pas trop de surprises. Cette piste, donc, c'est The Vessel, qui ne veut pas dire la vaisselle, mais le vaisseau, qui, pour moi, annonce un opus implacable, je trouve. Désolé, Yann. Je connais, j'ai eu l'impression que c'était un peu subi, non ?
Deux.
Je connais The Vessel.
Non ?
Ah bon, d'accord, pardon.
Non, je croyais, je disais The Vessel.
D'accord, ok.
Ça voulait dire la vaisselle, on ne dit pas une vaisselle des vaisseaux ? Bon, non, j'arrête, vas-y.
Alors, concernant The Vessel, le duo donc propose quoi ? Une ligne de basse grondante et grinçante, presque, par moments, je trouve drone, plus drone que noise. Bon, par moment, hein. Une frappe massive, écrasante et cyclique, dont le rythme est lent, pesant. Des riffs puissants, distordus et bruts, accompagnés d'un chant aussi angoissant qu'enragé. Donc le tout, évidemment, au cœur d'une atmosphère assez inquiétante, assez, oui, même lugubre aussi, hein, pour aller vers ça. Donc voilà, c'est un bon placard Sludgeum, je trouve, bien bruyant et bien sombre. Et il vous est donc offert par Doug, donc c'est parti. We'll be right back.
On est un peu dans la lourdeur. Hein.
C'était un placard, je vous l'avais dit.
Tout à fait. Bon, on va pas forcément égayer ce fond de cale. Mm-hmm. Avec le prochain groupe, c'est le quatuor parisien The Prestige qui revient avec un nouvel album, Eastmost, qui sortira en avril. Un nouvel album depuis plus de 10 ans, puisque leur dernier excellent album, Amer, était sorti en 2015, réédité pour les 10 ans en 2025. Bon, ils ont fait une pause, hein, ça leur appartient. Je vais vous lire le communiqué de presse, un peu. Hein. Non. Cette piste, la Noire Nuit, qu'on va s'écouter, nous plonge directement dans l'esprit de cet album. Je lis, hein, clairement. Dans une piste suffocante, obscure, sombre, dark, et un univers organique. Tout un programme pour ce post-hardcore hyper bien mené et hyper intense, en disque comme en live. C'est tout de suite, c'est The Prestige.
Die!
Voilà, vous êtes autorisé à reprendre votre souffle. C'était The Prestige, le nouvel album qui s'annonce, oui, à la fois dense, en musique, en son, mais aussi en émotion. Mmh. Ah, t'as vu un peu petite. Ouais. Pour la suite, je te laisse la.
Ouais, bah moi, du coup, ça va être hyper calme. Alors là, ça, vous allez tomber d'une grande marche. Hein. Je suis derrière ça. Donc, on continue avec Lawrence English. Qui est un compositeur, artiste sonore australien, qui est connu pour son travail dans la musique ambiante et expérimentale. Il est aussi le fondateur du label Room 40, qui publie pas mal de musique explorant le son comme matière. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup et que j'essaye d'explorer de plus en plus, le travail de la matière dans le son. C'est quelque chose qui m'attire. Donc là, le morceau que je vais diffuser, c'est And a Twist, qui est typique de son approche. Une composition très immersive. On est sur du full orgue, donc il a enregistré en Australie au Muséum de Brisbane. Donc il y a un énorme orgue. Attends, j'aimerais trop le voir en vrai. Enfin, c'est un instrument moi qui m'inspire et qui je trouve merveilleux. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Reims au mois de mai, je crois, il y a un festival à la cathédrale de Reims d'orgue, parce qu'ils ont réhabilité l'orgue qui était en construction depuis, enfin,
j'ai vu à France 3
en rénovation depuis plusieurs années maintenant, je crois depuis 2019. Donc ils vont faire 5 jours de concert, ça sera gratuit. Donc alors. Peut-être ça va faire une tangerie dream, hein. Je sais pas si les gens vont faire pipi sur
oui,
les
photos. Il faut voir.
Mais voilà, je vous invite à y aller parce que c'est quand même assez majestueux, en tout cas surtout celui de la cathédrale. J'en étais où ? Donc voilà, il va faire des nappes hyper lentes. En fait, il fait très très peu de notes avec son orgue et c'est très répétitif. Ça marche sur des espèces de petites des accords mélangés mineurs majeurs et de transformations progressives. Chez lui, le son, il se déploie presque comme un paysage. Voilà, c'est vraiment un paysage sonore. Et on entre dedans et on évolue tout doucement autour de nous. Voilà, donc je vous invite à écouter Lawrence English.
C'est pas habituel hein, qu'on écoute de l'orgue ici.
Oh, allez, avait... merci. Oh, moi j'avais bien envie de continuer à écouter. D'ailleurs j'ai pris toutes les infos.
On pourra
merci,
faire
hein.
une émission spéciale orgue hein, si vous voulez.
Ah enfin, ouais.
Et on pourra.
Ouais. Et, moi, et dans le fond on mettra du.
On mettra des bougies.
On mettra des,
des bougies. Ouais, et Yann Radig.
Ah si si moi j'aime beaucoup. Je suis même frustrée que ça se soit arrêté là tu vois. J'étais partie là.
C'était court.
Merci pour la suggestion.
Bon j'ai l'impression que ce soir c'est moi qui pète l'ambiance.
Allez, on pète l'ambiance.
On va à la Saint-Louis, Missouri.
Oui.
Écoutez un extrait du nouvel album, de futur album même, de Family Medicine, un groupe post-hardcore, mais plutôt emo, indie, voilà, rock, qui est fort agréable, Very Nice and Good, c'est le nom de l'album qui sortira donc le 13 mars, on va s'écouter Ellie Tractor. Alors, il y a un débat de savoir si c'était un tracteur désert, bon, enfin bon bref, ça c'est une autre histoire. C'est parti. On ira sûrement l'écouter en entier cet album quand il sortira. C'était Family Medicine. Je te laisse finir ta bouche, Marie, si tu veux. Y a pas de problème. C'est le dernier morceau de cette émission qui est passé, ma foi, très vite. Ça passe toujours vite, mais là,
oui,
encore
mais
plus.
Mais là, encore plus.
Tu peux. Vas-y, tu c'est peux. Bon. Marcher, si tu veux.
Désolée. Oui, donc on va clore l'émission. Donc, pas un bouche, ton bouche. Ouais! Donc proposé par le duo expérimental, industrial, tout ça, Dame Area, qui en 2024 avait donc sorti l'opus Toda la Verdad sobre Dame Area, évidemment, si. Via Mannequin Records. Et donc on va écouter donc Uro di Guerra, piste au beat percutant, dansant voire frénétique, aux sonorités métalliques rudes et explosives, aux ruptures de rythmique et aux chants tantôt parlés, tantôt entraînés par la dynamique qui rappelle parfois celle d'un vieux front de 4-2. Par moments, il y a des petits bouts de front de 4-2, je trouve. Et c'est trop cool, petite annonce de ce soir, mais qui est déjà en ligne depuis un moment. Le duo a rejoint la programmation de Bourlon.
Trop bien.
Et là, il y a plein de bons noms, donc on est encore plus impatients d'aller à Bourlon pour écouter tout ce beau monde.
Bah oui.
Bah oui, voilà.
Tout à fait.
Et donc, voilà. Moi, j'ai fini.
45 secondes ouais. Encore.
Et bah, merci à JC ouais, d'être venu ce soir.
Tu reviens quand tu veux.
Ah ouais.
Ah bah, ouais, avec plaisir.
Grand le
plaisir.
Siège est chaud, tu reviens et tu nous refais écouter de l'orgue.
Ah ouais.
Oui, ou autre chose. Enfin, ce que t'as envie.
Non, mais que t'as envie, oui, ce que t'as envie.
On se retrouve la semaine prochaine. Le podcast est sur radioprimitif.fr. Il y a une petite rediff qui se balade.
Oui, le mercredi à
22h. Voilà, si vous dormez pas.
Ouais.
Donc il y a rien d'intéressant à la télé pour écouter Radio Primitive.
Ouais.
Qu'est-ce que j'avais oublié de dire aussi?
Bah, je sais pas.
Je sais plus. La semaine prochaine, c'est vendredi 13. Voilà.
Ah bon?
Non, c'est pas ça.
C'est pas déjà passé?
Non. Bon, bah, si, mais il y en a deux.
Ah, incroyable.
Il voilà, y en a deux très rapprochés. En 2026, début 2027. Hop, c'est bon.
Oh merde, voilà. Allez, bisous.
Bisous, bon week-end, salut.
Top, il sera exactement l'heure d'écouter l'émission Pop.